Moi, c'est Franck Brésil, je suis au Café Oriental. J'ai réussi totalement cette
histoire. Moi, c'est Eric de Montmagny, au Café Oriental. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'amis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous accorde à nouveau la parole. Le gouvernement congolais devra lancer une étude en vue de créer une banque de l'habitat. C'est l'une des recommandations formulées jeudi 8 septembre par les experts qui participent à la première édition du salon de construction dénommé Expo Béton 2016. Cette banque pourra faciliter l'accès au crédit pour l'investissement dans les secteurs de l'habitat. Qu'en pensez-vous? Nous en soumettons au débat à l'adresse pa@radiocapi.net. Vous pouvez nous rejoindre et nous appeler directement au 081 890 7315 pour vos interventions en direct. Julie Fesabongonda est au standard, Pierrot et la Mégie à la réalisation de cette émission mise en onde par Eric Siakala. Il faut noter que cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Labung Angie. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Au chapitre 2 de notre Constitution, il est stipulé en rapport avec les droits économiques, sociaux et culturels, en son article 48, que le droit à un logement décent est garanti à tout Congolais. Voilà pourquoi nous faisons les débats aujourd'hui avec cette fameuse proposition de l'Expo Béton, ou des participants ou des membres qui ont participé à cette première édition du Salon des constructions dénommé Expo Béton, qui recommande donc au gouvernement de mener une étude en vue de créer une banque de l'habitat. Mais une grande question qui se pose aujourd'hui avec l'environnement financier de la RDC, qui connaît un boom de banques, est-ce que la banque de l'habitat ne serait-elle pas de trop pour travailler dans le secteur des crédits immobiliers? Alain Boulodjois, vous êtes en ligne, vous gardez la ligne, vous nous appelez depuis Siro. Denis, vous êtes à Kinshasa. Mais nous faisons d'abord plaisir de recevoir dans ce studio notre invité, honorable Jean Bamanista, qui est avec nous. Bonjour, honorable.
Oui, bonjour, Gilles.
Alors, vous êtes gouverneur de la province orientale démembrée et promoteur, et d'ailleurs, de cette première édition du salon de construction dénommé Expo Béton. D'entrée des jeux, quelles sont les motivations de l'initiative que vous venez de mettre au profit donc de la population congolaise, c'est l'Expo Béton?
Vous remarquerez que nous avons organisé cette exposition qui a été accompagnée par une conférence débat par un comité composé de l'ANAPI, de Congo Partenariat Développement Conseil, ainsi que de Ruby Design, pour que nous puissions réfléchir sur les questions essentielles et qui ont tourné sur trois thèmes principaux. C'est l'aménagement du territoire et ainsi que la construction, l'habitat, matériaux, les normes, etc. Ensuite, nous avons eu comme thème aussi l'industrie, la capacité des entreprises de construction, les PME, l'entrepreneuriat qui doit découler des matériaux de construction. Et puis, nous avons eu l'autre thème principal qui était celui des infrastructures et qui devraient passer par des partenariats publics et privés. Et nous avons eu l'occasion, en tout cas, d'entendre 30 intervenants principaux qui étaient repris sur la liste, mais à cela s'est ajouté aussi une vingtaine d'autres personnes avec de recommandations, avec des exposés de grande qualité qui ont permis à ce que nous puissions faire en tout cas un bilan positif de cet Expo Béton qui deviendra certainement une plateforme de réflexion et de recherche de solutions à tous ces problèmes.
Alors, cette première étape est assortie, donc vous l'avez dit, avis, de plusieurs recommandations, entre autres celles que nous avons évoquées en début de cette émission, où vous demandez au gouvernement de mener une étude en vue de créer une banque de l'habitat. Quel sera l'avantage de cette banque aujourd'hui par rapport aux problèmes que vous avez, les constats que vous avez laissés tout au long des exposés?
Le constat principal concernant l'habitat, c'est qu'aujourd'hui, il est très cher d'accéder à un habitat décent, parce que si nous avons trouvé une solution, en tout cas dans la partie ouest, le corridor ouest, qui va de Banana jusqu'à Maluku et Bandundu, sur le matériel qui est le plus recherché, qui est le ciment, le sable et la caillasse pour faire du béton, nous avons quand même des problèmes sur les autres matériaux. Donc nous devons rechercher à ce qu'ils soient accessibles, et non seulement en termes de prix à l'importation, mais surtout avec des incitations pour l'industrialisation de ces autres matériaux qui sont dans l'électricité, qui sont dans les matériaux en plastique, les matériaux à base de ciment, encore de calcaire, la plomberie, etc. Donc nous avons constaté aussi que le rôle de promoteur immobilier n'est pas organisé. C'est quelque chose qu'il faut organiser, et une fiscalité doit être aussi incitative pour permettre à ce que, par rapport au second point qui était le plan d'aménagement, nous avons tous découvert le schéma d'orientation stratégique de développement de la ville de Kinshasa à l'horizon 2050, qui vraiment est un travail de bonne qualité, qui a été fait par le gouvernement provincial et ses partenaires, et qui est passé par l'Assemblée provinciale. Et donc, il faut savoir où aller construire. Et il y a aussi une question sur la vieille ville de Kinshasa, mais dans ce schéma, vous allez voir qu'il y a trois pôles principaux, c'est Maluku, c'est Nsele, et c'est des petits pôles disséminés autour dans Kinshasa actuel, pour lequel il faut avoir des routes pour pouvoir y accéder. Le principe étant qu'on ne peut pas faire 2 kilomètres sans trouver une route où on peut avoir des moyens de transport. Donc tout ça, ce sont des infrastructures, et cela permet alors d'organiser des sociétés qui peuvent faire de l'immobilier. Au vrai sens du mot, ce n'est pas seulement de laisser l'auto-constructeur découper sa parcelle en 3, 4, 5 morceaux et faire des chambres ou des petits appartements, etc. Non, cela doit être fait suivant les normes, et c'est des nouveaux quartiers, en fait, qu'il faudrait construire, peut-être en dehors, dans les zones qui ont été réservées, dans le sud de Kinshasa, avant de revenir avec la nouvelle urbanisation qui doit être faite dans la vieille ville de Kinshasa. Donc cela demande qu'il soit organisé, la profession, en tout cas, de promoteur immobilier, pour offrir vraiment un cadre qui puisse être réfléchi, qui puisse être fonctionnel.
Voilà. Alors, honorable, c'est vrai, vous avez, disons, développé les 5 thématiques que vous avez citées tout à l'heure, qui m'a demandé très bonne: l'aménagement du territoire, la construction de l'habitat, l'industrie, le PME et le PPP. Alors, aujourd'hui, par rapport à chaque thématique, quel est le constat qu'on a fait de manière particulière? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le Congo connaît un problème sérieux avec l'aménagement du territoire. Et si nous passons au niveau de la construction de l'habitat, et là, vous venez d'ailleurs de le dire, la question relative à l'urbanisation qui ne suit pas, l'industrie qui pose problème, le PPP, on a l'impression que les gouvernements et en même temps investisseurs, mais le partenariat public-privé n'est pas du tout clair. Est-ce que c'est le même constat que vous avez fait lors des conférences ou des exposés?
Tout à fait. Je reviens là-dessus en complétant, en terminant votre question pour laquelle je pense n'avoir pas répondu complètement sur la banque de l'habitat. Effectivement, lorsque nous réglons ces autres questions, il faut promouvoir ces entreprises, mais il faut leur donner les moyens. Et les moyens aujourd'hui pour que les banques puissent vraiment suivre, puissent financer des gros projets, sont difficiles. Les banques n'ont pas eu ces produits à vendre, mais aujourd'hui on voit certaines banques, la Rebanque était là, l'Ecobanque et la TMB, BOAC, etc. Tout c'était là, en tout cas Expo Béton, et ont des nouveaux produits, même dans les équipements des maisons, avec Procrédit, etc., qui permettent d'accéder aux matériaux. Mais pour construire une cité, une ville, en tout cas, il faut l'appui du gouvernement. Il y a la question de la viabilisation des sites. On a souvent entendu l'ancien ministre professeur Mbuinga parler de ça, la viabilisation des espaces, qui doit être fait en partenariat soit avec un aménageur, soit avec un promoteur immobilier. Mais ça demande beaucoup. Et si nous voulons, par exemple, loger les agents de l'administration, ça serait peut-être difficile pour eux d'accéder à un crédit immobilier, parce que il dépassera certainement, et je pense que nous devons avoir des objectifs. Peut-on offrir une maison avec un crédit sur 4 ans, sur 5 ans, de 25 000 dollars, de 15 000 dollars, de 45 000 dollars, par exemple, aux agents administratifs? On a vu les exemples. Kinshasa a été construit comme ça par l'ancienne ONL, et on voit ce type de maisons qui ont existé. On a des espaces. Donc, il faut le soutien d'une banque, et qu'on pourrait appeler la banque de l'habitat, qui doit avoir le soutien du gouvernement, en ayant non pas seulement un programme d'inciter les gens à construire, mais sans planification, mais c'est surtout un programme de soutien aux constructeurs qui vont faire de nouvelles cités, et permettre à ce que les agents de l'administration, les employés des entreprises puissent accéder ensuite à ces maisons à travers leurs banques.
081-890-7315 pour votre intervention, et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook.
Parole aux auditeurs.
Nous entamons le deuxième quart d'heure de cette première partie d'émission. Alain Bonnejoie, vous êtes avec nous depuis Siro. Vous êtes là. Bonjour Alain.
Oui, bonjour Radio Capi, bonjour à tout le monde. Je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de saluer l'honorable, qui m'a toujours fasciné par ses réflexions.
Merci.
Voilà. Alors vous avez eu peut-être le temps de consulter notre site, et vous avez compris que nous abordons la question sur l'Expo Béton, cette première édition du salon de construction qui se tient à Kinshasa. La première étape vient de passer, l'étape des conférences, des exposés. Alors parmi les recommandations qui ont été formulées, il y a entre autres cette recommandation relative à la demande de participants à cette expo au gouvernement. Qui devrait donc, dans les jours à venir, lancer une étude en vue de créer une banque de l'habitat. Est-ce que vous pensez que ça sera un moyen pour sauver aujourd'hui les premiers problèmes de droit à un logement décent tel qu'est consacré par l'article 48 de la Constitution?
Donc, de prime abord, je voudrais féliciter une fois de plus l'honorable par rapport à cette réflexion. Ce qui est vrai, à leur niveau, il n'y a pas assez de problèmes, parce qu'ils n'ont fait que pendre des idées qui sont révolutionnaires, du fait que jusque-là, nous n'avons pas eu des gens de banque qui encouragent le secteur de l'habitat. Mais le problème se situe plutôt au niveau macro-sociologique, au niveau de la société, la superstructure qui est l'État. Aujourd'hui, nous savons que nous naviguons à vue. Il n'y a pas un plan de développement qui satisfasse les exigences scientifiques jusqu'à preuve du contraire. C'est vrai que le directeur de cabinet du chef de l'État a eu à proposer un plan, la première séquence du plan de développement. Il y a le gouvernement qui est en train d'élaborer ou de finaliser l'élaboration de la deuxième séquence du plan de développement. Et dans ce plan, il y a, je crois, 7 points lumineux qui doivent être placés au niveau de l'espace économique national. Et partant de ces plans, on aura certainement un plan d'urbanisation qui va l'accompagner, parce que nous savons tous que le problème de l'habitat n'est pas un fait isolé. C'est-à-dire que ça entre dans le cadre de la politique économique globale ou carrément du plan de développement. Si aujourd'hui nous prenons ce qu'il y a eu, ce que nous avons eu, Je prends l'exemple de la Banque des Crédits Agricoles. C'était aussi une initiative géniale qui était saluée par tout le monde. Certainement qu'il y avait des experts qui ont analysé la profondeur ou l'âme même de ce projet. Mais malheureusement, cette banque n'existe plus. Quelque part, nous devons reconnaître que de bonnes idées ne trouvent pas de matelas qui susceptibles de les amener dans leur explosion ou dans leur exécution, celle que voulait par l'initiateur dès son origine. Tout simplement parce qu'il y a des lacunes qui ne permettent pas à ce que nous rassurions de la qualité ou de la mise en application de ces projets. Je suis d'avis que si on met en place une banque dans ce sens, eh bien, ça va booster le secteur, mais malheureusement, jusqu'à cause du concret, il y a plusieurs lacunes qui vont empêcher à ce que nous atteignions l'objectif.
Allez,
le premier cas pour la banque. Pour que la banque survive, il faut que les villes toutes, les cash outflows, soient assez équilibrés pour permettre à ce que la banque puisse survivre. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes rassurés que le pouvoir d'achat de la population, que la capacité d'accéder à ces logements de la population pourra permettre à ce que cette banque puisse survivre? Deuxièmement, est-ce que les charges, la capacité de résoudre le problème en tenant compte de l'espace, c'est-à-dire en tenant compte de la configuration politique administrative aujourd'hui, est-ce que ça sera en mesure d'accompagner ces projets jusqu'à la fin? Donc moi je dis, le gouvernement doit accepter, doit recevoir cette initiative survivable et prenable, mais de son côté doit avoir certains préalables. On doit se rassurer qu'il y aura une sorte de pérennisation du projet pour que nous n'ayons pas de morts nés comme d'habitude. Nous avons des grands problèmes avec le lac. C'est aussi une étude qui a été faite. Mais malheureusement, aujourd'hui, le lac n'existe plus. Nous avons créé Congo Airways, qui est déjà mourant, mais qui vit grâce au service de l'État. Donc, quelque part, c'est que moi, je vous demande au gouvernement de recevoir ces projets, mais de prendre son temps à mettre en place un plan de développement sur lequel doit se greffer ces projets, et non commencer à créer le projet et par la suite constater que ça a été
Malheureux. Merci. Merci beaucoup, Alain. Je retiens que pour vous, les problèmes de l'habitat n'est pas un problème isolé, ça rentre pratiquement dans la politique globale. Et aujourd'hui, vous plaidez pour que le gouvernement congolais puisse accompagner ce projet, de construction, de projet dénommé Expo Béton, qui en fait prend le temps de prendre en compte tous les problèmes qui se posent dans les secteurs de l'habitat, entre autres l'aménagement du territoire, la construction de l'habitat, l'industrie, le PME, les PPP. Voilà, donc on vous souhaiterait que ce projet, que ceux qui sont impliqués dans la réalisation de ce projet puissent travailler dans le souci de pouvoir vraiment le pérenniser, que ce soit un mort-né. Merci beaucoup, Alain Bolojoie, d'avoir appelé depuis Isiro. Archange, vous êtes à Kikwit. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, merci, messieurs les journalistes. Bonjour à l'invité.
Alors, vous avez suivi Bolojoie qui tout en saluant d'ailleurs le projet proposé dans le cadre d'Expo Béton, qui renvoie en fait à la mise sur pied d'une banque de l'habitat, mais un problème qui doit être pris de manière un peu globale, pas de manière isolée, mais tout en demandant que le gouvernement puisse accompagner ce projet. Et quel est votre avis, Archange?
Oui, d'entrée de jeu, je vais commencer par féliciter l'initiative et féliciter les initiateurs. Pour aborder dans le même sens qu'Alain qui venait de parler tout de suite là, je crois que ce problème n'est pas isolé comme vous venez de le dire. Ça doit entrer dans la politique globale. Mais le problème qui se pose, c'est celui de la politique qui doit rédiger le tout. Est-ce qu'on a une politique pour l'habitat? Oui, je crois qu'on en a, mais pourquoi cela ne peut pas marcher? C'est parce que nous avons un problème d'homme. Il sait que lorsqu'on doit mettre en place une banque d'habitat, oui, mais c'est bien de le mettre, mais qu'ils vont travailler parce que nous en avons vu avec les projets comme banque agricole dont les fonds, il y a aussi la banque, ce qui a été mis pour l'industrie là, dont les fonds ont été octroyés aux personnes qui n'avaient pas qualité. Donc les problèmes se posent à ce niveau-là. Mais aussi, un problème, c'est que lorsqu'on parle de l'habitat ou un logement, ça, c'est comme si on s'en tient beaucoup plus qu'à Kinshasa, parce que c'est pas seulement que les Kinois qui ont besoin d'un habitat, une habitation décente. Si je peux parler de notre cas ici, nous avons eu des initiatives privées qui ont essayé un peu de mettre en place de tels projets. Je vais prendre le cas des, pour ne pas les citer, l'honorable Moufi tout qui a initié le FFO, un projet pour la chance des, c'était 100 maisons dans un coin de la ville de Sécrit ici, où on devait au finish octroyer aux assistants du système parce qu'ils habitaient un peu proche du coin où on était en train de construire. Mais pour nous, ce que je peux poser, c'est qu'il n'a pas été encouragé dans ce sens. Il y a eu des interpellations, il y a eu des gens qui ont essayé d'acquérir de n'importe quelle façon. Et jusqu'à ce que l'initiateur s'est découragé et le projet s'est arrêté en cours de chemin. Mais aussi, lorsqu'on parle du plan d'aménagement du territoire, il ne sait pas à quoi on fait le genre. Parce que lorsqu'on parle du plan d'aménagement, on doit inclure tout. L'environnement, l'habitation, tout doit entrer dedans. Donc, on va parler du plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas quand est-ce que cela va démarrer et pourquoi c'est le temps jusque-là. Nous avons des érosions comme le cas chez nous ici. Je ne crois pas que cela puisse exister. Un plan d'aménagement de la ville qui fait, je ne sais pas. Parce qu'on doit construire en fonction d'un plan qui existe.
Merci beaucoup, Akal.
S'il vous plaît.
Voilà. Merci, Akal. Il y a beaucoup d'autres qui attendent quand même d'intervenir dans cette émission. On va prendre Denis qui est à Kinshasa. Denis, vous êtes avec nous?
Je suis là, bonjour monsieur.
Voilà, alors Denis, vous venez de suivre Alain Bonnejoie qui plaide pour l'accompagnement du gouvernement par rapport à ce projet. Et de l'autre côté, il y a Archange qui insiste, hein, en donnant bien entendu des exemples de quelques tentatives de ce genre au niveau de certaines provinces, mais qui n'ont toujours pas marché. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quelle lecture quand il y a un tel projet, par exemple Expo Béton, qui demande à ce qu'aujourd'hui les gouvernements puissent mener une étude minutieuse en vue de créer une banque de l'habitat? Est-ce que vous pensez que par là, ça peut quand même donner une solution aujourd'hui pour répondre à l'article 48 qui stipule que le Congolais a droit à un logement décent?
Oui, je suis vraiment d'accord avec l'idée, l'initiative est bonne. Mais, monsieur le journaliste, ce que je me pose comme problème, c'est que, bon, si nous voyons, les exemples sont les gens ici à Kinshasa, où vous voyez, par exemple, allons vers Ransom-sur-Mollard, il y a des maisons, là, ça s'appelle la place de Pépinière.
Oui, allez-y, je comprends, oui, vous parlez de la cité de l'Oasis.
Ah ouais, et si vous y allez, les coûts de la maison d'une simple salon, ça va au-delà de 2000, ça va au-delà de $300 par mois. Mais d'accord avec l'initiative du gouvernement. Et c'est vraiment une bonne idée que nous allions. Moi, ce que je me pose comme question, c'est que est-ce qu'ils vont bâtir toutes ces maisons-là et les coûts seront vraiment abordables partout congolais? Quand je parle congolais, on voit tout le monde qui est engagé, tous les fonctionnaires. Est-ce qu'ils seront en mesure d'avoir une maison?
Alors, je crois que Denis, on va se mettre d'accord sur certains points, sous réserve, donc, ceux qui maîtrisent bien les clauses des différents contrats de ces partenariats, mais que nous avons eu à faire des émissions ici avec le secrétaire, madame le secrétaire, l'ex-secrétaire général Habitat, madame qui n'est plus, voilà, donc, qui venait souvent avec nous ici, Bafalanga, qui nous a dit le projet Oasis ou autre projet, par exemple, au niveau de fait du fleuve, c'est des projets de privé. Ce n'est pas le projet qui rentre dans les cadres de développement proposé par le gouvernement en ce qui concerne le développement. Je crois que on prend ça sous réserve, comme nous avons notre invité pourrait nous apporter quelques éclairages là-dessus. Parce que quand vous évoquez un problème de coût, hein, donc je crois que ce sont des précisions que nous avons voulu apporter.
Maintenant, ce que je voulais poser comme problème, bon, pas comme problème, hein, je voulais un peu encourager l'initiateur. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il faut que l'accès soit vraiment accordé à tout le monde, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit qui qu'il soit. On ne peut pas seulement privilégier, disons, une classe sociale, parce que bon, quand il parle de 25 000, 30 000 à 40 000, bon. Et si vous faites le calcul dans le salaire d'un fonctionnaire, ça ne peut pas convenir pendant autant d'années, disons, pendant 4-5 ans, pour qu'il puisse un peu s'acquitter de cela. Donc le mieux à faire, l'idée est bonne, mais il faut réduire un peu les coûts de sorte que chaque personne soit en mesure
d'accéder à un logement.
Oui, normalement.
Merci Denis. Alors, on va prendre juste cette dernière intervention de Denis pour revenir un peu, rebondir un peu sur la question de Denis qui nous a appelé de Kinshasa, qui en fait, qui revient pratiquement sur ce problème de partenariat public-privé. Vous avez eu, l'honorable Jean Ababalista, à écouter les exposés par rapport à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que ça ne marche pas, en tout cas dans les secteurs de l'habitat d'un tel régime?
Écoutez, en tout cas, sur la question de la politique, le gouvernement doit avoir cette politique. Là, on a eu à entendre l'ancien ministre de l'Habitat, l'honorable Lubamba César, qui nous a parlé de tout ce qui a été fait. Donc, en tout cas, les programmes et les objectifs existent. Nous avons eu aussi écouté le ministre actuel. Donc, tout ça existe et c'est une question de faisabilité et de mise en œuvre. Alors, la première question, et c'est ce que, dans mon introduction, vous pourrez d'ailleurs lire, parce que les questions, vous avez vu, vous avez posé des questions, on n'arrive pas à tout répondre, parce que le sujet est très vaste, et je recommande en tout cas aux différents auditeurs d'aller sur le site expobétonrdc.com, et vous allez avoir certainement cet après-midi tout déjà posté, toutes les interventions, et rassurez-vous aussi qu'Expo Béton va devenir une ASBL de développement dans le domaine. Alors la question que j'avais posée d'ailleurs à l'introduction, c'était comment faire baisser le coût de construction. Parce qu'il ne sert à rien de construire et de penser que nous allons accéder à ces constructions si le coût est élevé déjà. Et c'est là où on doit remonter à la production de tous les matériaux, ciment, fer à béton, carrelage, plomberie, etc. Tous les matériaux qui interviennent, et même la terre. Tout cela et la viabilisation, etc. Il faut d'abord faire en sorte, étudier chaque produit, comment le diminuer pour que le coût soit diminué. Aujourd'hui, nous avons un coût de production et de construction qui est trop élevé. Comme bien souvent d'ailleurs ici, dans notre pays, nous ne faisons pas attention à tous les coûts des matériaux, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'habillement, tout. Nous ne faisons pas attention à cela. Et je me rappelle, quand j'étais à la PEC, je disais, prenons produit par produit pour pouvoir analyser son coût, soit d'importation, soit de production, mais faisons en sorte que nous puissions le produire. Alors une fois qu'on a ce coût de production qui doit être diminué, et c'est la tâche que nous allons, en tout cas à travers une section de Expo Béton, travailler là-dessus. Nous pouvons, en attendant, de mettre en place une banque. Le gouvernement peut mettre à la disposition des banques privées, aujourd'hui, une ligne pour permettre à ce que des promoteurs immobiliers puissent construire et mettre à la disposition suivant des conditions. Vous savez, aujourd'hui, il ne faut pas qu'on aille vers des remboursements de 4 ans, 5 ans, 6 ans. L'habitat, c'est 15 ans minimum, 20 ans, 25 ans. Et il ne faut pas que demain aussi, on ait cette forme de gestion de politique du gouvernement qui change quand l'équipe change. Ça doit être des méthodes plutôt pérennes. Vous avez pris un crédit, vos enfants le paieront s'il le faut. Le gouvernement qui viendra aujourd'hui, demain, devra avoir quand même des archives pour pouvoir travailler là-dessus et permettre à ce que vous puissiez avoir les moyens de rembourser. Donc, même à travers les banques actuelles, et moi j'ai travaillé aussi un peu là-dessus pour, je peux vous dire qu'il y a une des sociétés extérieure qui a déjà fait une ligne de crédit à une banque ici locale, mais nous voulons plutôt que ce soit notre gouvernement qui mette 200 millions, 300 millions de dollars, pas des 2 millions, 3 millions que les banques peuvent aller chercher à l'extérieur. Ça doit venir de notre gouvernement sur une période de 15 ans, 25 ans, pour qu'une famille puisse pouvoir accéder à l'achat de sa maison.
Mais alors, honorable, il faut pas non plus oublier que, en fait, les Congolais ont fait de mauvaises expériences en ce qui concerne la politique de l'habitat. Nous avons connu des cas qu'on peut citer, en tout cas si ma mémoire est très bonne, des cas Mananalaï, le cas de Congo Construction. Aujourd'hui, vous avez un immeuble dont les travaux sont inachevés ici au niveau de la gare centrale. Et il y a le cas des Rimouquine, la première tentative, ça n'avait pas marché. Aujourd'hui, on lance encore la deuxième tentative. L'auditeur venait d'évoquer les cas de la cité de l'Oasis et la cité du Fleuve. Et voilà, toutes ces expériences, on se rend compte que finalement, les privés disons, travaillent à l'électro-libre.
Oui, ce n'est pas organisé. Voilà pourquoi la profession de et les entreprises de promotion immobilière doivent être bien encadrées et doivent être sécurisées. On doit revoir la fiscalité, etc. Je donne un exemple que j'avais constaté dans la loi 013 dans la zone B, et c'est ce que nous appliquions par exemple en ex-province orientale. Quand vous construisez une maison, les 5 premières années, le locataire ne paye pas l'IRL. Voilà des choses qu'il faut vulgariser, il faut...
C'est ça, les temps partout. L'IRL, c'est l'impôt sur le revenu locatif.
Voilà, on n'est pas payé quand c'est un nouvel investissement. Cela réduit déjà et permet à ce que les promoteurs, pas des autoconstructeurs, nous devons essayer d'avoir des promoteurs immobiliers qui ont des cités entières et pas des maisons isolées à gauche, à droite. Aujourd'hui, oui, on encourage à le faire, mais ça doit entrer dans une un plan général. Notre intervenant de Arcan, je pense,
a parlé du plan général.
Mais écoutez, la première prérogative, je le répète encore, des gouvernements provinciaux, c'est celui de l'aménagement du territoire. C'est vrai que cette matière, l'article 204 de notre Constitution et les articles qui suivent en parlent, et c'est vrai que c'est une matière concurrente, mais les gouvernements provinciaux doivent s'équiper avec des bureaux d'études pour commencer à élaborer les plans d'aménagement et trouver des matériaux maintenant moins chers pour pouvoir, et avec des entreprises locales. Quand j'entends, souvent on parle de maisons préfabriquées, etc., ça me fait un peu rire. Nous avons les matériaux ici. Nous ne devons pas penser à faire des matériaux préfabriqués qui viendraient de l'extérieur. Nous pouvons le faire ici. En 87, déjà, j'avais lancé cette idée, ce projet, même à Mujimaï, mais qui n'avait pas tenu parce que ce n'était pas à base de briques et de ciment, parce que là, le Congolais, il a la brique et le ciment dans le ventre, comme on dit, et il veut voir une maison dure. Donc, hier, j'ai travaillé avec deux jeunes entrepreneurs et nous avons dessiné des modèles de maisons avec des matériaux qui peuvent être faits ici en préfabriqué, mais à base de ciment encore, qui peuvent être accessibles. Donc, la recherche, c'est là où vous avez vu l'engouement des ingénieurs, des architectes, des étudiants. Et nous voulons promouvoir cela, comme à l'exemple d'autres pays, la corporation des constructeurs est un métier noble, parce que c'est eux qui réfléchissent sur l'avenir, la fonctionnalité et les infrastructures de demain. Donc, à travers Expo Béton, nous espérons pouvoir mettre en place cette structure pérenne qui puisse réfléchir.
Voilà, nous rappelons d'ailleurs que chaque semaine, on va revenir sur une des recommandations de l'Expo Béton. Aujourd'hui, donc, on met l'accent sur la Banque de l'Habitat. Si déjà vous nous avez déjà, vous êtes à Moulia et Elie à Mandaka. Elie est déjà passé, donc on peut plus revenir sur lui. Alors, Sylvain, vous êtes avec nous à Moulia. Bonjour, Sylvain.
Bonjour, Thibault.
Voilà, Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour. Et quel est votre avis?
Merci. Je voudrais d'abord saluer Laura déjà Bamani, notre ancien gouverneur, bien sûr, de l'Est, province de la table de Mambré. Et aussi, je voudrais encourager l'initiative de l'Expo Béton. Donc, c'est un très bon salon, surtout que notre pays souffre d'un certain nombre de problèmes, surtout en matière. Du logement. En fait, moi j'ai d'abord deux petites préoccupations. Je voudrais un peu essayer de réfléchir avec Laura déjà Mamani par rapport à ça. Ce qui est vrai, je suis d'accord avec lui que le projet doit aller au-delà de 15 à 20 ans. Et ça, c'est en fait une durée normale en termes de l'investissement immobilier. Et immobilier, je dirais. Pourquoi? Puisque ce sont des travaux de grands envergure. Mais je me pose une question par rapport à un partenaire qui est l'État congolais, qui sur le plan politique subit un peu une instabilité. Et aussi, j'ai dit aussi quelque part, les animateurs n'ont pas un avenir rassuré, puisque cela se laisse voir. Aujourd'hui, nous sommes en dialogue. Et donc, on doit toujours se poser des questions. Si l'on met un ensemble de projets en marche, il doit être une garantie politique qui doit permettre à ce que le projet continue et réussisse. Ça, c'est une petite préoccupation que j'ai. La deuxième, c'est que je suis un peu sur me poser une question. Lorsqu'on parle, par exemple, de l'entrepreneuriat, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, regardez l'esprit non créatif des Congolais. Et je me pose aussi une question. Si l'Expo Béton a eu le temps de consulter les secteurs de l'éducation, il a parlé aussi de la recherche, j'aime ça. Est-ce que nous sommes en train de mettre en notre tête, c'est qu'il faut impliquer le secteur de l'éducation dans l'entrepreneuriat pour que ça avance. Alors, ces deux préoccupations seraient peut-être répondues par mais je voudrais aborder la question de quelle façon. Messieurs les journalistes, lorsque vous voyez la question de PME, c'est notre pays qui est très riche, je vais toujours répéter.
Voilà, mais Sylvain, vous êtes en ville. On a perdu Sylvain, je crois qu'on a des petits soucis avec la ligne de Sylvain. On va prendre plutôt Élie à Mbandaka. Élie.
Oui, alors bonjour.
Élie, vous êtes avec nous, vous venez de suivre Sylvain qui a en fait salué les deux mains comme le fait un prédécesseur et qui en fait soutient ce projet et qui pense que effectivement le projet en matière de l'immobilier, de l'habitat doit aller au-delà de 15 ans qui constitue d'ailleurs une durée normale de l'investissement immobilier. Alors aujourd'hui, est-ce que vous partagez cet avis?
Merci beaucoup pour cette opportunité. C'est une option de bienveillance qui pourrait en quelque sorte résoudre les problèmes du social dans notre pays. Dans le sens que la création des banques de l'habitat va promouvoir les logements sociaux. Elle doit en fait s'intégrer au développement de l'habitat en ville et même dans les différentes provinces dans notre pays. Alors, à mon avis, la création de cette institution doit avoir une mission essentielle dans ce que je pense. C'est de financer les opérations du promoteur immobilier, ainsi que des ménages qui concourent directement ou indirectement au développement de l'habitat décent en milieu rural, tant qu'au milieu urbain. Dans ce sens, vraiment, personnellement, je préfère recommander au gouvernement d'instaurer une certaine mesure en sa faveur, notamment la défiscalisation des produits de compte, état d'épargne et logement, et mettre en place un code d'urbanisation. Et la participation de l'État à la construction de son capital et en même temps de donner le marché de l'habitant. C'est ça ce que je vais insister. La politique congolaise et les gouvernements de notre pays doivent donner le marché de l'habitant dans les mains du secteur privé afin de trouver une meilleure sériosité des affaires. Dans cette optique de résonance, il y a une certaine difficulté dont je vais émettre pour l'instant la radio Capri. Difficultés seront situées en quelque sorte pour ce qui concerne véritablement les manques de banques dans les milieux rurales, parce que dans la plupart des cas,
vous avez suivi,
par la banque, ça sera parfois difficile. Donc, il faut donner, il faut payer les fonctionnaires à travers les banques. Parce que tout le monde dans son pays ne reçoit pas les salaires à travers les banques. Il y a certains salariés dans notre pays qui bénéficient leurs salaires à travers des fonctionnaires, à travers des agents payeurs. Donc, ça serait parfois difficile parce que lorsqu'on a l'envie peut-être d'avoir un crédit et pour un logement distant, lorsqu'on ne reçoit pas les salaires à travers les banques, ça serait parfois difficile pour que vous soyez crédité. C'est pas le problème, c'est que j'insiste. Et puis, c'est que je vais interpeller au gouvernement, parce qu'il y a tant de projets, monsieur Gilles, dans notre pays. Il y a tant de projets qui, en fait, cherchent à se faire, à se réaliser dans notre pays. Mais jusqu'alors, l'exécution des projets, ça semble être difficile dans notre État. Les responsables congolais cherchent toujours à amplifier et anticiper les projets. Mais pour les problèmes de l'exécution des projets, ça devient un problème hypothétique difficile dans notre pays.
Voilà.
On ne peut toujours pas mener des projets. Voir le projet de la bancarisation qui a été déjà publié par le premier ministre de notre pays. Mais voir ces projets qui ont été limités jusqu'alors dans les milieux qui urbains. Ça n'a pas été le milieu là.
Voilà. Merci beaucoup, Élie, parce que là, vous avez posé un problème très sérieux pour résoudre également ces problèmes, même si on doit mettre en place une banque de l'habitat. Il faut d'abord résoudre ce problème de bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Mais si on s'en tient d'ailleurs aux résultats ou à l'évaluation faite par les comités de suivi de cette opération, publiée d'ailleurs l'année dernière, on se rend compte qu'effectivement, aujourd'hui, on est à plus de 90, plus de 10, de 90. 90% de bancarisation de salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Donc on peut dire, déjà, on a fait un pas, des avancées très significatives qui pourraient aussi être un élément pouvant aider ce projet à aller de d'avant, comme on l'avait dit, et les autres l'ont également soutenu, que la durée est normale de l'investissement immobilier, c'est au-delà des 15 ans. Donc là, ça fait déjà une confiance parce que le salaire est bancarisé, même la prime, et ça pourrait aider pratiquement aux promoteurs immobiliers, s'il s'agit pratiquement d'une banque ou à un privé, de se retrouver. Merci beaucoup, Elie, d'avoir appelé Edem Bandaka. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Gilles Ngembo, bonjour à monsieur l'invité.
Quel est votre avis, Maître Adrien, après avoir suivi les uns les autres?
Oui, bon, je pense que le projet en soi, il est bon. Il est bon, mais malheureusement, à mon humble avis, je pense que il est tardif. Hein? Il est tardif, ça ne sert à rien qu'on puisse rêver le projet, parce que le projet devrait commencer depuis très longtemps pour permettre les uns et les autres de se retrouver, parce que le problème d'habitat, c'est un problème très sérieux dans notre pays. Ce projet ici aurait dû intervenir depuis très longtemps, parce que avec le moment actuel, moi je me dis comment le gouvernement peut s'en sortir. Donc là, c'est la première inquiétude. La deuxième inquiétude va dans le sens de mon prédécesseur. Il faut d'abord commencer par donc l'évaluation et la bancarisation, parce que c'est sur base de cette évaluation que le gouvernement pourra maintenant avoir une idée nette pour voir comment est-ce qu'il faut faire promouvoir donc son idée qu'il venait de mettre en place. Parce que sans l'évaluation, on risque d'aller avec les choses vaille que vaille. Ça ne sera pas du tout une réussite, mais ça sera un échec. Et puis, troisièmement, il faut se demander si réellement dans ce pays nous avons la police à la matière d'habitat. Mais moi, j'ai dit non, nous n'en avons pas. Vous n'avez qu'à jeter un coup d'œil pour voir comment est-ce que les constructions se font. Hein, il y a des constructions qui se font en désordre, il y a des entassements, même là où le terre congolais pouvait aider, donc prêcher par l'exemple pour aller là où il y a des espaces vides, mais l'État est champion pour se concentrer là où il y a déjà donc certaines constructions. Ça pose toujours des problèmes. Voilà comment est-ce que moi, je suis en train de voir les choses hier.
Merci beaucoup, Maître Adrien. On va découvrir quelques messages qui nous ont été envoyés par les internautes et aussi les inconditionnels de parole aux auditeurs. Il y a Joël Bouyoma qui nous a écrit de Kisangani. J'encourage cette initiative vu que c'est une innovation dans les domaines de l'habitat. Ma préoccupation est celle de savoir si ce projet était inscrit dans le programme du gouvernement. Est-ce que cela est une priorité actuellement, surtout pendant ce moment où tout le monde a les yeux braqués le 19 décembre. Germain Tabassé, initiative d'études dans le souci d'améliorer les conditions sociales de la population est une idée à saluer, mais le gouvernement se perd souvent dans la hiérarchisation des priorités dans ses actions sociales, étant donné que les études générales sur les problèmes socio-économiques réels de la population n'ont jamais été menées, mais que le gouvernement se limite à se contenter de tout premier marché qui se présente. Alain Bolodjois, Dissiro, des premières analyses, cette étude, cette idée de créer une banque pour l'habitat apparaît une bonne chose en soi. Il serait plus paisible si l'on nous disait sur base de quel plan de développement, sur quel programme et politique d'habitat se fonderait cette initiative. Albert Mbakama, créer une banque de l'habitat, c'est bien. L'exemple récent est celui de FPI, dont les opérateurs industriels manquent d'accès. C'est plutôt une autre classe qui y accède. Vicky Chiyoyi, Dembujimbaï. Donner les initiatives, c'est bien, mais il y a une question, il y a deux questions qui tombent. Est-ce que le peuple congolais doit-il saluer cette initiative? Car pour lui, c'est lui-ci et le moment où la question majeure qui devrait préoccuper le gouvernement devait être celle de financer les élections. Voilà, nous retrouvons notre invité dans ce studio, honorable Jean Bamanissa. Après avoir suivi les uns les autres, on se rend compte qu'il se dégage là plusieurs préoccupations. Entre autres, aujourd'hui, le plan de développement. C'est vrai, il y a le projet Expo Béton qui fait des propositions. Il y a un problème aujourd'hui de l'encadrement et de l'accompagnement qui doit nécessairement être démis pour arriver vraiment au résultat.
Voilà, je l'ai rappelé, prérogative numéro un d'un gouvernement provincial dans la constitution que nous avons depuis 2006, c'est celui de l'aménagement du territoire. Donc, combien de provinces l'ont fait? Moi, je me réjouis quand même qu'Isangani, j'ai laissé un sur la route de l'aéroport, qui doit continuer à être poursuivi. Il faut qu'il soit respecté. Sur Ouattara aussi on a fait, sur Bounia, il y a des compétences locales avec qui on peut travailler et nous avons certainement ici en tout cas des urbanistes et des architectes congolais qui sont formés, qui devraient en tout cas aller donner leur savoir au niveau des gouvernements provinciaux. Mais là encore, il y a cette problématique, et nous l'avons abordée, de la réglementation et de l'administration du ministère de l'Habitat, de celui des affaires foncières et du corps des métiers des architectes, des ingénieurs. Il est un fait aujourd'hui que cela ne marche pas du tout, puisque en tout cas, dans son début de morcellement, de viabilisation, enfin, ou de création des parcelles, et d'octroi jusqu'à la construction, il y a un gros problème, nous le savons en RDC. Mais prenons l'exemple de ce qui est fait ailleurs et refaisons les choses dans l'ordre, parce que beaucoup de pays le font et ça marche très bien. Donc ça, c'est la première des choses à faire, c'est d'organiser le secteur au niveau d'abord de l'État, au niveau du respect des procédures et au niveau des coûts, parce que aujourd'hui tout le monde est un peu en insécurité parce qu'il n'a pas toujours transformé son titre parcellaire par un titre de propriété, parce qu'il a construit sans permis de construire, ou la façon dont il a obtenu, c'est comme un papier qu'on achète et c'est tout. Alors, la seconde chose dont on est revenu là-dessus, c'est la fiscalisation. Effectivement, si le gouvernement, à travers le ministère de Finances, a commencé à octroyer des facilités dans la chaîne de production, ce qu'on appelle la chaîne de valeur, en déduisant par exemple la TVA, et dans toute la chaîne pour les fournisseurs les clients, par exemple dans le ciment, c'est ce qui sera fait. Mais sur 4 ans, je peux vous assurer, j'encourage le gouvernement à travers le ministre des Finances à plutôt revoir la fiscalité. J'encourage ceux qui ont le temps de lire aussi un livre de maître Marcel Yabili, La nouvelle fiscalité réglementaire, 50 000 taxes, redevances et droits, lorsqu'on doit les compter dans tous les 30 ministères, les 26 provinces et les 1435 entités territoriales décentralisées. Cela montre qu'il y a une nécessité d'aller déterrer complètement, non pas de corriger, ça c'est ce qu'on appelle un peu du maquillage, de faire des réductions ici et là, mais d'aller vraiment mettre en place une nouvelle fiscalité dans notre pays.
Est-ce qu'on aura c'est possible aujourd'hui de faire de cette banque de l'habitat, elle divers dans l'immobilier, comme c'est dans la RDC, comme c'est le cas par exemple en France ou en Tunisie, c'était quand même un pays africain.
Non, oui, si on des pays africains, moi j'ai vu comment ça marche
au Mali,
au Sénégal, dans toute la partie ouest et la partie est, ici au Kenya, en Afrique du Sud, etc. Ça existe. Et c'est soutenu, je l'ai dit. Et une solution urgente peut être trouvée, c'est celle de travailler avec les banques, puisqu'aujourd'hui, la bancarisation des agents de l'État, du personnel des entreprises privées, est peut-être à 90% déjà bancarisée. Alors que le gouvernement passe à travers ces banques-là pour mettre à leur disposition un crédit qui pourrait satisfaire à ces secteurs de l'immobilier, du logement. Avant de créer, moi je ne pense pas qu'il faille nécessairement arriver à les créer dans les 2 ans, parce qu'on sait qu'on n'a pas peut-être ces capacités aujourd'hui de le faire, on a soulevé des choses.
Avec les priorités,
on peut travailler à travers les banques privées, et dans 3 ans, par exemple, avec ces banques, créer une nouvelle banque où l'État maintenant est actionnaire et l'État met les moyens. Mais il faut commencer d'abord un genre d'apprentissage. Sinon, se lancer tout de suite comme ça serait difficile.
Voilà, on va repasser de l'autre côté des standards pour accueillir Valérie qui est à Kinshasa, Joël à Kinshasa et Confiance à Kinshasa. Valérie, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, M. Thiraud, bonjour au gouverneur Jean Bamanissa. Je salue pas mal l'initiative, d'autant plus qu'elle est vraiment sanitaire pour le pays. Mais je me réalise que pour bien la réussir, l'implication du gouvernement est vraiment prépondérante, au motif que, primo, sur le plan, par exemple, financier, les travailleurs qui auront à payer, même si ce sont des fonctionnaires qui sont bancarisés, c'est déjà une bonne chose, mais encore faut-il que l'on ajuste un peu l'enveloppe, parce que ce n'est pas avec des mecs de salaire comme ça que quelqu'un pourrait facilement payer. Deuxièmement, nous voyons aussi du point de vue, en dehors de la fonction publique, que dans des autres entreprises, il est difficile de trouver un Congolais qui puisse travailler pendant 30-40 ans d'affilée. Ce sont souvent des travaux qui font 5-10 ans, et à ce moment-là, si quelqu'un a déjà commencé à payer, il va falloir qu'on trouve d'autres mécanismes après sa révocation, sa résiliation, ou encore même la liquidation de son entreprise. Donc il y a aussi un problème d'ordre managérial, un toilettage auquel il faudrait faire recours. En plus de cela, au plan pédagogique, je me dis qu'il faudrait aussi réalimenter les IBTP qui sont à l'intérieur parce que, bien sûr, on va construire, mais avec qui ? Avec des ingénieurs, oui, mais il faut renouveler la classe tout le temps. Alors, quand je vois les IBTP qui sont à l'intérieur, excusez-moi, mais je les trouve un peu plus pauvres par rapport à ceux que je trouve à Kinshasa. D'où il va falloir que l'on améliore un peu la qualité de l'enseignement et puis beaucoup d'infrastructures. Ça sera très intéressant. S'agissant par exemple de la réduction des coûts, pour que les coûts puissent être réduits, évidemment, il va falloir que les coûts des matériaux de construction soient au départ réduits. Par là, j'évoque déjà l'idée de la relance de la sidérurgie de Maluku pour nous fournir par exemple des barres de fer à faible prix. Et aussi, il faudrait que nous puissions quand même revoir les problèmes de la douane. Nous avons une douane très chère, ce qui fait que les coûts d'importation est élevé et par conséquent, ça va entrer dans la structure des prix qui va nous conduire aussi à des coûts élevés et finalement, un remboursement qui pouvait se limiter par exemple après 5, 7, 10 ans peut nous amener au-delà, d'autant plus que les autres paramètres avaient été tenus en compte. Donc voilà au moins ce que je voulais ajouter là-dessus.
Merci beaucoup Valérie. Votre intervention, se focalise sur trois points, notamment les problèmes du management dans les secteurs immobilier, également le problème d'alimenter les IBTP en province ou à l'intérieur du pays, et vous avez fini par le coût des matériaux de construction et relancer ainsi la sidérurgie de Maluku. Donc, ce sont là vos propositions. Alors, Joël, vous êtes à Kinshasa, bienvenue.
Je suis géologue. Je voulais intervenir dans l'émission. C'est bon, j'encourage l'initiative de l'honorable. Et je me dis aussi que c'est une bonne initiative pour la création de l'emploi, vu que la jeunesse, pendant presque une décennie, n'a plus l'accès à l'emploi. Alors, je voudrais savoir, effectivement, il y aura création d'emplois, et quels seront les critères d'accessibilité à cet emploi. Parce que ce que nous voyons souvent, c'est qu'il y a la potentialité, les jeunes diplômés sont là, mais quand il faut généralement les tests ou quand il faut l'interview, après ce sont des recommandations politiciennes qui tombent, et ceux qui avaient les critères d'éligibilité sont
pas réglés
par ces recommandations. Alors, quel serait le point de vue de l'honorable pour ce point-là? Sinon, c'est un point à encourager. Et si ça va s'étendre sur toute l'étendue de la République démocratique.
Voilà. Alors, merci beaucoup, Joël. Alors, le temps pour nous, d'ailleurs, de revenir avec notre invité sur, en fait, l'expo béton. De quoi s'agit-il concrètement? Parce que, finalement, ce n'est pas une entreprise qui est créée, hein. Je comprends bien le souci de Joël. Est-ce que, c'est une occasion pour trouver l'emploi, créé par le promoteur de cette première édition, de ce salon? Voilà, donc, pour apporter un peu d'éclairage, par rapport à ça.
Voilà, l'Expo Béton, donc, comme je dis, c'est un rassemblement des professionnels des décideurs du secteur de la construction. Et vous avez vu que les sujets se sont étendus à beaucoup d'autres points qui sont essentiels, en tout cas, dans la vie de tout citoyen. Et Expo Béton va devenir une ASBL de développement où nous aurons des membres et qui pourront réfléchir, en tout cas dans toutes les provinces, sur les questions essentielles sur la construction. Et je voudrais revenir aussi sur le site. En tout cas, nous avons été surpris qu'en quelques jours, nous avons atteint atteint plus de 48 000 visiteurs, donc il y a vraiment un engouement et tous nos documents vont être postés là-dessus. Et vous dire déjà que nous prévoyons trois ateliers plutôt au mois de janvier sur les trois thèmes principaux, aménagement de territoire, habitat, sur l'entrepreneuriat et l'industrie, et puis sur les infrastructures et les partenariats publics-privés. Et le 21, 22, 23, 24 juin 2017, nous aurons Expo Béton, RDC, deuxième édition. Donc la date est déjà fixée. Je voudrais revenir sur ce que Sylvain Bougnard, Valérie ici à Kine, sur les jeunes. Effectivement, nous avons eu la présence des élèves des instituts techniques, l'IPI, l'Institut Don Bosco, etc., bien qu'ils étaient encore en vacances, mais certains se sont en tout cas manifestés. Et il a été remis le prix du génie, en tout cas au meilleur lauréat. Et d'ailleurs, c'était dans une école ici, je n'ai pas le nom malheureusement ici, qui avait fait les meilleurs résultats de la République aux derniers examens d'État. Il a reçu son prix et nous avons pu inviter aussi tous les quelques étudiants de toutes les universités et instituts supérieurs. Le ministre d'enseignement supérieur lui-même était là. Il a aussi parlé de cette réforme qui est en train de se faire au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Et nous avons aussi primé, puisque nous avons fait un concours sur les deux jours, nous avons primé des étudiants sous le prix de l'innovation. Ils ont chacun reçu un prix et nous allons continuer à le faire. Nous allons les mettre aussi, en tout cas avec les différentes industries, en contact pour que cela puisse permettre à les former. Et que dans toutes les provinces, la réflexion autour de cette question majeure, parce que l'habitat permet en tout cas une éducation correcte, une vie décente et un avenir beaucoup plus normal. C'est vraiment ça c'est normal.
Voilà. Alors, honorable Jean Bamalissa, nous vous gardons encore en ligne pour 15 dernières minutes de cette émission. L'histoire de rappeler à tous ceux qui viennent à peine de nous rejoindre qu'ils peuvent également composer les 081-890-6315 pour les interventions directes et s'ils ont la possibilité de poster leurs commentaires également sur notre page Facebook qui peut le faire. Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Nous poursuivons avec parole aux auditeurs. Félicien, vous êtes à Kinshasa. Ingénieur Battier, vous êtes à Wali-Calais, vous avez rejoint. On commence avec vous, Félicien. Bonjour. Félicien, vous êtes à Kinshasa?
Allô?
Félicien, vous êtes avec nous?
Non, c'est l'ingénieur.
Voilà.
C'est l'ingénieur.
Voilà, ingénieur Battier, vous êtes à Wali-Calais.
Oui, Battier, je vous appelle à partir de Wali-Calais dans le vrai Congo profond.
Oui.
Je voulais juste intervenir et poser une petite question à notre invité par rapport au sujet qu'on est en train de débattre ça. Moi, je pense que le projet qui vient d'exposer ça, pour le moment, je peux dire que c'est vraiment un projet utopique parce que nous avons remarqué que lors de son règne là à la province orientale, on avait même initié de tel type de projet pour l'amélioration de l'habitat. Il y avait au moins un projet là qu'on devrait faire une échantillonnage des maisons à Sangani pour dans les quartiers, je pense, les quartiers Simesta. Jusque là, on n'avait même pas eu le bilan de ça. Et aussi, pendant le règne de l'invité, on avait aussi initié un autre projet d'amélioration de l'habitat dans la ville de Goma, dans les quartiers de la police des frontières. Jusque là, on n'avait même pas le bilan. Si au moins l'invité peut nous dire d'abord, est-ce que le gouvernement actuel peut nous donner d'abord une évaluation, les comptes rendus de ces projets-là. Là, on peut dire que non, voilà, ils ont des projets qui peuvent être réalisables. Sinon, ce sont des choses qui sont utopiques. Et nous, la population, sommes déjà fatigués avec des projets. Si jamais des projets qui n'est pas réalisable, ils commencent à la fin, ça ne se réalise pas. Alors, nous pensons que ça sont des projets. Parce que la population n'a plus confiance à leurs projets qu'ils nous amènent. On attend seulement que le prochain gouvernement peut venir avec des projets là, on peut accepter que non, voilà, on peut.
Voilà. Alors, en attendant de. Nous vous le concédons, ingénieur Mathieu, en attendant que le gouvernement arrive, hein, ben, est-ce qu'on peut quand même se permettre de réfléchir, non? De réfléchir sur des projets, hein, je crois que c'est quand même important. Hein.
Mais réfléchir aussi, on peut réfléchir avec les gens qui comprennent au moins nos pensées. Avec les gouvernements actuels, on peut réfléchir avec les gens qui vont vous écouter. Vous participez dans des réunions, mais ils ne tiennent pas compte de vos déclarations.
Merci beaucoup.
Ils ne tiennent pas compte de tout ce que vous les donnez comme des propositions. Alors,
voilà. Alors, parce qu'il s'agit d'une préoccupation directe, nous revenons à vous, honorable Jean Bamanissa. Vous venez de plus, c'est vrai, il y a eu des projets qui ont été initiés, hein, en tout cas dans les secteurs immobiliers. Il a utilisé les termes sur votre règne dans la province orientale de Cantons aujourd'hui. Alors, où en est-on? Est-ce que, bon, ce sont des projets, c'est des mornay ou quoi?
Mais écoutez, je vous ai dit ici qu'un premier projet sur l'habitat, je l'ai lancé en 87, mais ça n'a pas tenu. La zone économique de Maluku, la zone économique de Kimpese, de Badana, j'ai lancé les réflexions devant le Conseil de ministres en 2001. Et puis finalement, mon bureau d'études qui avait conçu a vu de loin le projet commencer à se mettre en place. La zone économique existe. Et tout ça pour dire que, bon, le ciment, je peux vous dire, j'ai commencé à faire des études en 2004 sur la nécessité de ce matériel qui est essentiel au programme du gouvernement. Mais ça prend du temps, effectivement, mais on ne se décourage pas et on continue à le faire. Lorsque j'ai été à Kisangani, comme gouverneur de l'ancienne province, il a parlé ici. Bon, ce n'était pas à 6 instants, ça c'était un ancien projet qui avait été lancé avant nous. Mais nous avons laissé, en tout cas, un projet de morcellement de 4000 parcelles qui se trouve au PK8 et pour lequel l'administration doit mettre maintenant à la disposition des demandeurs et des promoteurs immobiliers. Un des premiers promoteurs immobiliers sur cet espace, c'est 300 maisons pour une usine qui est déjà construite au PK8 avec des préfabriqués. Et utilisant aussi quelques matériaux locaux, et les parcelles sont là. Et effectivement, la dernière fois, j'ai entendu une autorité me dire que, après moi, elle a cherché ce plan et on lui a dit que c'était l'affaire de Bamanissa. Pourtant, c'était un acte qui est déposé, qui doit être
un principe de continuité.
De continuité. Mm-hmm. Et sur Bouya, nous avons aussi fait un travail. Nous avons commencé sur une partie derrière, justement, c'est pas à Goma, c'est à Bouya. Et qui voulait dire, je crois, l'ingénieur Bati, ce terrain qui était en conflit entre la Soukimo et la communauté locale, et communauté locale qui faisait l'auto-administration, qui morcelait, etc. J'ai été visité, j'ai vu qu'ils respectaient par exemple la largeur des voiries, c'était bien, et puis nous avons inclus cela dans un plan général. Et je laissais ce plan général, mais c'est maintenant à l'administration de mettre à la disposition de demandeurs de terres, suivant les règles qui sont là, et que les gens puissent construire. Sinon, c'est l'autoconstruction qui se fait. Nous avons fait aussi celui de Huacha, en tout cas, future ville, une grande ville où se trouve aujourd'hui une grande mine, et nous avons appréhendé le problème de l'habitat, et nous avons fait un plan d'aménagement avec un bureau d'études qui m'avait suivi. Nous avons réhabilité les maisons de l'État, vous avez vu, avec une société privée qui a investi son argent, mais aujourd'hui, après nous, et on semble remettre tout cela en cause. Ces études ont été faites, ces travaux ont été investis par les partenaires dans le cadre du partenariat public.
Alors,
et donc la question de l'aménagement au territoire, écoutez, c'est une question où, qui, en tout cas, qui me touche profondément et pour lequel je continuerai à faire des études et des propositions. Et soit le privé, soit l'État devra alors nous accompagner.
Alors, on va terminer avec Félicien qui nous a rejoint d'abord. Félicien, vous êtes avec nous?
Oui, bonjour à votre invité et à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Voilà, vous avez suivi les uns les autres, Félicien. Quel est votre avis par rapport d'ailleurs à cette initiative, hein, Expo Béton, qui connaît sa première édition du salon des constructions et la suite qui sera l'année prochaine. Nous allons faire une série d'émissions autour des recommandations. Aujourd'hui, c'est vrai, on a abordé la question sur la banque de l'habitat. Quel est votre avis?
Mais à quoi faire, je me demande à quoi faire de faire des projets quand on est fait mandat, et surtout dans un pays où on a.
Voilà, félicitations.
On a la culture du respect, je vais dire, de la continuité de l'action de l'État. Parce que ceux qui viendront après, ils ne vont même plus regarder ça et ça va passer inaperçu. Parce que au moins ça fait 19 ans que l'acte est arrivé. Le gouvernement de l'AFD n'a jamais pensé à ça et il n'a jamais
félicitations.
La deuxième république avait commencé.
Félicitations, on va gagner du temps parce qu'on a plus assez de temps.
Molo et c'était Verpé.
Voilà, là on ne s'entend pas. Voilà, on ne s'entend pas, Félicien.
On a commencé avec cette politique de l'habitat.
Voilà, merci Félicien. Je crois que nous allons terminer avec vous, honorable Jean Bamanista. C'est vrai, vous avez plaidé également au niveau de cette Expo Béton sur les zones économiques spéciales. De quoi est-il question? Mais il y a également cette problématique de la fiscalisation, les problèmes de fiscalité autour des entreprises, parce que vous avez évoqué. Il y a même un auditeur qui a parlé de la réhabilitation, la restauration, si vous passez les termes, de la sidérurgie des Maloukous. Mais il y a d'un côté des privés qui travaillent aussi, mais il y a un problème, cette pesanteur de la fiscalité. Alors comment résoudre ce problème?
Ceux qui sont passés par le stand de Nouveau Congo Partenariat Développement Conseil, qui est mon bureau d'études, ont pu voir que le projet de la zone économique spéciale aujourd'hui, que nous appelions la zone économique de développement agro-industriel de Maloukou Zedam, avait été conçu et présenté au gouvernement en 2001 par nous, et aujourd'hui c'est en train de se réaliser. Mais la question de l'habitat, par exemple, ne figure pas dans la loi sur les zones économiques spéciales. J'ai eu déjà à présenter au gouvernement un projet de modification pour que on ne mette pas des industries à Maloukou ou demain à Kimpessé et qu'on ne donne pas des avantages aussi à l'habitat et aux autres équipements. Écoles, hôpitaux, etc. Donc, ça demande la réflexion et je pense que ce n'est pas une question seulement de gouvernement. Comme je disais, la profession de ceux qui participent dans le secteur privé, en tout cas à l'aménagement, à la construction, etc., c'est un métier noble. Il y a certains pays qui leur donnent toute leur importance. Aujourd'hui, nous sommes contents que les architectes s'organisent, que les ingénieurs s'organisent. Et à travers Expo Béton, ils auront une plateforme pour pouvoir s'exprimer. Nous devons penser à notre avenir. Si nous ne le pensons pas nous-mêmes à travers les structures privées ou para-étatiques, ce n'est pas seulement une question du gouvernement. Ces structures doivent avoir la capacité d'influer sur les décisions et de veiller à leur exécution par les différents gouvernements et les différentes personnes compétentes qui devraient gérer les différentes sections du gouvernement sur ces questions-là.
Alors parlons du corridor ouest. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez nous faire une idée?
Oui, le corridor ouest, donc nous avons constaté, comme je vous l'ai dit, en 2001, nous proposons ces trois zones économiques et puis aujourd'hui c'est en train de se mettre en place et c'est comme ça que et vous voyez le temps que ça prend 15 ans que je suis là-dessus et aujourd'hui celle de Maloukou est en train de se mettre en place avec ça doit avoir une connotation agro-industrielle, on voit Bukangalo, ils ont beaucoup plus loin, c'était pas tout à fait notre idée c'était de le faire juste après les collines de Maloukou et près du fleuve, etc., mais de transformer les produits là et agricoles, de stopper de mettre en place un quai pour la transformation des produits agricoles qui viennent de l'intérieur et le marché est en train de se faire. Donc, ça rejoint à peu près ce que nous pensions. Demain, c'est celui d'autour de l'industrie, puisque nous avons l'électricité, nous sommes sur cette route par le chemin de fer et la route nationale numéro 1 entre Matadi et Kinshasa. Mais n'oublions pas que nous avons aussi dans ce plan de développement le pont entre Kinshasa et Congo-Brazzaville à partir de Maluku, et qui rejoint Banana, où nous devons avoir notre port en eau profonde aussi. Et nous pensons qu'il faille, nous avons fait des propositions au gouvernement pour que nous puissions mettre en place une nouvelle structure du corridor ouest, ainsi que nous le mettrons aussi dans le corridor sud, est, etc., pour pouvoir réfléchir à l'intégration de différents intervenants et utilités, fonctionnalités de la vie des citoyens.
Honorable Jean Bamanissa, merci d'avoir été des nôtres, et nous rappelons que vous êtes arrivé dans ces studios en tant que promoteur de cette Expo 2016, Salon de Construction. À très bientôt pour notre débat.
Merci.
Voilà, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci à Eric Cécile Cala qui a assuré la mise en onde de cette émission réalisée par Thierry Labéji, Julie Fézabourgonde et Standard et Jérôme Guimbo a eu le plaisir de coordonner et présenter cette émission sous la supervision de Julien Niamouli. On se retrouve demain dans un autre numéro.